This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Yannick Daron et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un MOOC. Je déteste ce nom puisque c'est la contraction de magazine et de book, mais un MOOC dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de Kiss Kiss Bang Bang. Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus.
Remember when you talk dirty.
Je suis mou comme une larve aujourd'hui. Donc je suis même pas sûr d'avoir la tu vois, je vais pas pouvoir m'énerver plus que ça.
Donc moi ça me fait marrer quand les mecs ils te parlent de surévénements, d'où t'as un événement dans une surfranchisation du monde où on te promet que tu vas revoir ce que tu vas revoir, ce que t'as déjà vu. En te faisant croire que tu vas voir mieux, et c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Bring it on.
Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Daron, et aujourd'hui on va se confronter à la série télé la plus défoncée de l'histoire avant même sa diffusion, la plus défoncée pendant sa diffusion, est la plus défoncée encore, une fois passé son dernier plan, si pauvre de toute ambition conceptuelle et si métaphorique de la forfaiture sémantique à laquelle notre monde s'habitue, qu'il force inévitablement le sarcasme. Je parle bien sûr de Rings of Power, mais ça pourrait être à peu près la même sur House of Dragons, véritable non-événement, comme dirait à juste titre mon ami Moïsakis, s'inscrivant dans le sillon tayloriste d'une franchisation néolibérale de ce qu'on appelait autrefois la culture, qui a pourtant réussi à faire croire qu'ils en étaient des événements, ce qui, bien au-delà des retours de bâton, consacre la puissance industrielle et, j'oserais dire idéologique, des GAFAM. Inutile donc de feindre la surprise, la colère, l'indignation ou le sentiment de trahison plus ou moins légitime. Inutile aussi de prétendre à la béatitude face aux atours charmeurs ou l'exaltation devant de rares fulgurances. Toutes ces réactions sont vaines, presque prédestinées, s'alimentant au-delà du produit en question, hypertrophié par les caisses de résonance virtuelles dans lesquelles nous pensons penser avant de penser que peut-être on a déjà pensé à notre place. Et nous voilà répétant à l'envi les mêmes mantras séculaires qui composent à peu de choses près l'espace mental dans lequel on nous laisse nous ébrouer. Nous en parlons ? J'en parle parce qu'on a parfaitement réussi à nous faire croire qu'il fallait en parler, même si la chose en question n'a fondamentalement rien à dire. Et si on ne sombre pas encore dans un désenchantement total, malgré ce constat terrible que tout le monde comprend une fois l'épiphénomène passé, sans pourtant s'en tenir à un silence qu'il aurait mérité, c'est que ces cris du cœur, lucides ou aveugles, témoignent d'une appétence, voire d'un besoin vital impossible à rassasier, mais aujourd'hui dramatiquement dénié, pour ce que représente une histoire, et peut-être davantage encore, une épopée. Me dire, on en revient toujours au même. Sans doute, et j'ai déjà évoqué le sujet maintes fois, jusqu'à Elden Ring récemment, mais peut-être parce qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que le problème va au-delà du cinéma, des séries ou de toute autre forme d'art, et que l'imaginaire en lambeaux est bien le fruit d'une évolution collective, et j'aurais tendance à dire suicidaire, de nos sociétés. La stérilité orchestrée des débats autour de Rings of Power, tellement prévisible qu'on aurait pu en écrire chaque outrance avant même qu'elle n'arrive, en est un symptôme, et le théâtre d'ombre qui s'agite dans tous les sens, là où une fois terminée, l'évidence de ce que cette série représente saute aux yeux sans avoir besoin d'y passer 20 plombes. Et cette évidence, c'est le rien caché sous les enluminures, le vide sous les passions tristes du moment, le néant de l'idée même d'imaginaire, de mythe ou d'épopée, enveloppé sous le voile illusoire au choix du pognon, de la hype, de la com Panzer Division ou de l'espoir en forme de déni. Trop woke ou pas assez, trop riche ou pas assez, traître ou pas envers l'œuvre de Tolkien, autant de pare-feux collatéraux à l'évidence de l'incompréhension de ce qu'est une épopée, et donc à l'abandon de l'humanité et de ses fascinantes contradictions dans la majorité des fictions contemporaines. Des fictions plus simplement bidons de lessive, ce qu'elles furent longtemps, sans empêcher des centaines de perles d'émerger, mais des fictions qui, par la thune ou l'idéologie, par le nombrilisme et l'autosacralisation, ne parlent plus désormais de l'humanité, tout en prétendant le contraire, bien sûr. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends quand Amazon te dit fièrement « je vais foutre $1 milliard » pour faire le Seigneur des Anneaux, en fait ? Donc ça, c'est la vraie question. Quel espoir tu entretiens par rapport à ça ? Nous, j'imagine, nous, on n'attendait pas un espoir monstrueux, tu vois. Un truc comme ça, tu te dis, il n'y a pas la base de Tolkien, fondamentalement. Il n'y a pas la base, je veux dire, romanesque, en tout cas du récit de Tolkien. Là, on est sur quelque chose qui est censé interpréter une historiographie fantastique ou une cosmogonie imaginée par Tolkien, où tu te dis, bah ouais, mais enfin, vu le niveau des fictions aujourd'hui, ça fait très très peur de comment vous allez nous raconter cette histoire-là. Parce que, tu vois, vous n'avez pas le support du maître, entre guillemets, et puis vous n'avez plus des gens qui réfléchissent à leur scénario et qui essayent de comprendre ce qu'ils font.
Elle est où alors la thune ?
Ah, la thune, elle est dans l'image, en fait. Elle est dans le décorum. Alors, il y a des choses très belle, en fait. Évidemment, t'as un milliard, tu as le temps de le peaufiner ton plan. Puis quand t'as un réel comme Bayona sur les deux premiers, le mec peut mettre en scène ses idées visuelles, mais sans aucun problème. Et il y a des idées qui sont super, même le générique. Tu vois, moi, je le trouve très joli, là, avec tous ces petits points là qui sont comme le sable, une espèce de sable qui se forme. Le pognon comme le spectacle qu'on veut te donner, c'est une vitrine. Alors évidemment, c'est une vitrine facile pour dissimuler ses lacunes et dissimuler l'insignifiance de ce qu'il y a derrière. On est dans une ère de l'enluminure. L'enluminure suffit, en fait, fondamentalement, à ce que les gens puissent être potentiellement contents. Alors ceux qui vont gratter un petit peu derrière la belle image peuvent encore se raccrocher à des mécanismes et qui sont des ficelles quand même grosses comme une maison de l'émotionnel, ce qui n'empêche pas la série de réussir des petits moments, tu vois. Déjà, c'est pas Jackson qui avait inventé la scène dramatique sur une chanson d'un des personnages. Là, encore une fois, t'as une scène d'errance des pieds velus, là, les futurs hobbits, avec une musique. Et c'est très joli, et c'est bien filmé, et c'est émouvant. Et il y a certains acteurs qui sont plutôt bien dans la série et qui te créent des scènes touchantes, mais on peut pas, tu vois, j'ai l'impression qu'on est tellement désespéré, en fait, de la narration moderne et de l'inversion sémantique du sens des choses. C'est ça, le problème. Alors, je suis moi-même tombé dans le panneau. Moi-même, j'ai voulu y croire. Peut-être moins pour un Tolkien revisité par Amazon, ce qui fait déjà tout drôle en le disant, que pour la présence de Bayona, dont j'ai toujours admiré la mise en scène, même dans un navet comme Jurassic World 2. Et la beauté de cette dernière, dans les deux premiers épisodes qu'il a réalisés, je m'y suis accroché, excusant l'inanité des articulations narratives, sous le prétexte que ce n'était que l'exposition. Mais force est de constater qu'il n'est devenu lui aussi, en espérant un projet plus personnel, que l'instrument talentueux d'un récit à chaque épisode de plus en plus vain et déshumanisé. Inutile d'entrer dans les détails, de suranalyser le méandre d'incohérences, les arcs narratifs qui n'en sont pas, le délayage d'enjeux anecdotiques, les circonvolutions pour se libérer de Tolkien tout en se justifiant. Rings of Power, Rings of Power. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi d'être comme Van Damme et de me la jouer internationale là-dessus. Ok. Les Anneaux de Pouvoir ne racontent pas grand-chose, dans le sens qu'ils ne racontent pas grand-chose de nous, ce qui est pourtant le propre d'une épopée, en dehors des postures politiques fantasmées à coups de massue. Je suis emmerdé parce que dans ce genre de truc, bon, t'apportes des détails, mais c'est insignifiant. C'est-à-dire que si on peut rentrer dans mille détails, on peut dire tout ce qui va pas, parce que les trahisons à Tolkien, je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a des trahisons qui peuvent être légitimes et qui sont pas gênantes pour des questions de temporalité, pour des questions potentiellement d'arc narratif, pour des questions de spatialité. Il y a des choses que tu peux trahir qui sont pas dramatiques. Les mecs qui te parlent du rythme, alors évidemment, mais moi ça me gêne pas dans l'absolu. Un rythme lent, je trouve qu'on est toujours à la course au spectaculaire, même si quand tu lis Le Seigneur des Anneaux, au-delà de ces gigantesques et incroyables descriptions, tu as toujours une espèce de rythmique d'aventure qui fait que tu as toujours un événement qui se passe, toujours quelque chose qui en faisait déjà des bouquins extrêmement visuel et donc extrêmement propice à des adaptations cinématographiques. Et Jackson l'a bien compris. Et si tu veux, quand il a construit son film, il ne se passe pas 15 minutes sans que tu aies pas un petit morceau de bravure, un truc. Alors là, on n'y est pas du tout. Hein. C'est-à-dire que sur les 8 épisodes, il doit y avoir un épisode où ils ont décidé vaguement de se réveiller et de faire une scène de bataille. Mais c'est tout. Sinon, c'est du soap opéra. Hein. Les trois quarts du temps, c'est du soap opéra. Alors contrairement à Tolkien, mais même à un Sergio Leone, voire un Hitchcock, qui savaient introduire leur film par la petite porte pour finalement l'ouvrir en grand, construisant patiemment des univers qui se révélaient par cercles concentriques pour mieux dessiner la cohérence et la symbolique de leurs enjeux. Les Anneaux de Pouvoir se précipitent dans un désir d'amplitude impatient et terriblement symptomatique de notre époque pour ne savoir quoi faire de cet espace sans topographie, un comble quand on adapte Tolkien, fièrement jeté en pâture pour finalement s'amenuiser, se rétrécir d'épisode en épisode. Un espace visuellement magnifique, mais sans spatialité, j'insiste, qui cache la petitesse de ses enjeux, ces derniers se révélant très vite comme de simples twists en devenir, pour fans prépubères de la terrible logique méta dont Marvel est devenu le champion éternel. Et la première chose, probablement la plus visible, enfin en tout cas qui m'a le plus heurté, moi, c'était vraiment ça, c'est la spatialité. Rings of Power, enfin le Seigneur des Anneaux, c'est, on le sait, c'est l'importance de la topographie par rapport à la cohérence et à la crédibilité de l'univers, pas simplement. C'est-à-dire que la topographie, les lieux, les décors, les paysages avaient un sens, une symbolique par rapport aux personnages. Là, non mais là, t'as l'impression qu'on te jump d'un endroit à un autre, tu ne sais jamais où ça se situe. On te dit, bon, à Numénor, ok, je veux bien, c'est là-bas, dans la mer, mais couplé à une pauvreté cataclysmique des enjeux, puisque ce n'est rien d'autre que des twists. Donc tu découvres plein de personnages, alors des pseudo-hobbits, les mecs de Numénor, alors Galadriel qui est plutôt intéressante au départ, parce que tu te dis, ok, la meuf, elle est super, super actrice en plus, tu vois, vraiment, et tu la vois, tu dis, ah, cool, c'est pas juste la femme forte que je te pose là en te disant, hey, regarde comme elle est forte. Non, c'est pas axé là-dessus, c'est vraiment axé sur, elle est troublée, elle est obsédée, elle a un désir de vengeance qui est mêlé à des atermoiements, donc, hey, ok, potentiellement un personnage intéressant, qui n'évoluera strictement jamais pendant tout le reste de la série, mais peu importe. Mais tu vois, 12 milliards, et tu ne te repères jamais. Jusqu'à ce que t'en arrives quand même à cet épisode assez hallucinant où Galadriel passe des plombes à Numénor pour essayer de convaincre les gens que Sauron va arriver dans les terres du Sud, en terre du milieu, et qu'il faut aller dans les terres du Sud. Les terres du Sud, hein, fantasme, les terres du Sud. On avait vu des mecs venir des terres du Sud dans Le Seigneur des Anneaux pour le conflit final. Tu sais, c'est cet au-delà des petites frontières que l'on connaît, donc justement tout ce qui te fait fantasmer, tu vois. Et les terres du Sud, c'est un village de pisous, quoi. Non, mais. C'est hallucinant, en fait. C'est-à-dire, Numénor part avec Galadriel et tout le monde, 6 bateaux, tout ce que tu te dis, bon, bah, tu vas l'avoir, même s'il ne sera pas innovant, tu vas l'avoir, ton passage retour du roi, à un moment donné, dans les terres du Sud. Attends, mais zobi, quoi ! C'est toute chipouille ! Et plus la série avance, plus tu dis, t'as des super belles images, tout ce qui est à l'intérieur de l'image, c'est chipos. Et alors, je sais pas comment j'ai fait pour rester jusqu'au dernier épisode, parce que, je veux dire, dès le troisième, j'étais en mode, oh, putain, où vous voulez en venir, les mecs, en fait. Où vous voulez en venir. Et non, et au bout du quatrième, t'es là de se dire, oui, non, en fait vous allez raconter de la merde jusqu'au dernier épisode pour nous dire, hé, hey, t'as trouvé c'est qui seront ? Hé, hey, t'as trouvé si c'est Gandalf ou si c'est pas Gandalf ? Et là, tu fais, putain. Ah là là, la logique Marvel, quoi. La logique méta, quoi. Or, l'épopée ne naît que d'une porte qui s'ouvre, d'un appel de l'aventure jusqu'ici refusé, allégorie, bien sûr, des initiations ritualisées qu'impose la vie et qui fait que le plus petit des hommes peut changer le monde. Pas d'une grande porte ouverte sur une myriade de personnages divers, des gens en transhumance, dont les espaces se referment inévitablement à mesure qu'ils sont sacrifiés sur l'autel d'un monde qui change malgré eux, jusqu'à se jouer, de façon inexorablement minable, dans un village de Paysus, comme sur la berge d'une rivière qui n'a de mythique que ce qu'en avait écrit Tolkien. À la limite, la jeune Nori aurait pu porter sur ses épaules cette lourde condition humaine, comme celle d'un Frodon questionnant à chaque instant ce que nous sommes. Mais c'est con, cette épopée a déjà été écrite. Et la pauvre réminiscence de ses futurs héritiers aura bien du mal à nous raconter ce que nous savons déjà, surtout quand elle nous quitte sans autre charge allégorique que d'être le sidekick d'un être tombé du ciel, donc divin, qui concentre sur lui les enjeux en devenir et de par sa nature, l'inverse du principe d'épopée. On en revient donc au dernier plan de la série, évoqué plus haut, lui aussi magnifique symptôme de cette perpétuelle inversion sémantique, où dans un plan similaire à celui de Jackson, ce n'est plus Frodon qui découvre la crête du Mordor comme allégorie de notre peur de la mort, mais Sauron qui jouit de cette mort qu'il embrasse et qu'il veut répandre dans le monde entier. Bien sûr, d'aucuns se diront peut-être qu'on a l'épopée qu'on mérite.
Il y a un truc hallucinant quand même, c'est la réponse qu'ont donné les deux jeunes créateurs de la série.
Quand rien fait avant en plus.
Hein ?
Qu'apparemment, on peut
ouais. participer à des petits trucs, mais qui n'ont pas fait grand-chose. Donc, on leur a fait confiance, ce qui est plutôt cool dans l'absolu, hein, d'avoir des mecs qui devaient avoir eu une approche qui a fait pencher la balance dans leur faveur. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont vendu, parce que quand je vois le résultat, je me dis, ah putain, ouais, donc eux, ils n'ont pas compris ce que c'est une épopée, mais les mecs à qui ils ont vendu leur concept ne se sont jamais posé de questions non plus pour dire, allez, super, votre approche, les gars, elle est géniale. Mais les raisons qu'ils donnent, bon, là, typiquement, toute la série, en fait, ne raconte rien. Elle ne tient que sur deux pitoyables twists qui sont en gros, c'est qui seront. Et est-ce que l'étranger qui tombe du ciel, c'est Gandalf ou c'est pas Gandalf? Bon. Et tout le reste n'a strictement aucun intérêt. Et parce qu'ils ne tiennent que là-dessus. D'ailleurs, tout est un délayage magnifique. Et comme ils veulent tellement garder leur twist, si tu veux, qu'ils te condensent tout pour produire leur twist dans le dernier épisode. Et enfin, tout ça est fait n'importe comment. Et la justification pour ne pas avoir respecté, en fait, qui était Sauron, qui était un certain type de personnage, qui avait participé avec duplicité chez les elfes, à fabriquer les anneaux, tout ce que tu veux, bon bref. Et les mecs essayaient de se justifier pourquoi ils avaient créé un personnage fondamentalement dans la série, qui finalement se révèle être Sauron, avec cette façon de dire non, mais parce que, en fait, si on n'avait pas fait ça, tous les gens qui connaissaient les histoires de Tolkien auraient su dès le départ, oui, donc on sait. Tu sais, quand on va voir Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, on l'a lu le livre, on la connaît l'histoire, on vient pas pour être surpris par l'histoire, tu vois. Donc en fait, maintenant, un scénario, c'est se poser la question de c'est quoi le twist ? En fait, on en est là. C'est-à-dire que tu ne tiens plus les gens par l'intelligence de ce que tu leur racontes, par la peinture d'un univers que tu leur dévoiles, par l'éventuelle complexité psychologique de personnages. Non, non, tout ne doit tenir que par est-ce que c'est Sauron ou c'est pas Sauron ? C'est qui Sauron ? Non, mais on n'est pas dans Agatha Christie, quoi, tu vois ? Et les mecs, c'est ça leur réponse, quoi. Et là, moi, je suis là, non, mais là, c'est pas possible, en fait. Tout ce monde postmoderne, mais considère déjà que c'était postmoderne avant, qui reprend, en fait, tous ces mythes qu'on a aimés, tous ces films qui ont cartonné. Alors là, je vais de Alien à Predator à Robocop à Terminator. Enfin, tout ce que tu veux, tout ce qui est pas pour rien devenu des piliers mythologiques du cinéma pendant une trentaine d'années et qui sont systématiquement récupérés parce que fondamentalement, hormis Marvel, ces trucs-là, c'est ça le référent culturel dans les consciences. Comment cette façon qu'on a, alors ça c'est déjà une première chose, cette façon qu'on a de les prendre et de s'y accrocher et d'en faire exactement l'inverse. C'est-à-dire on va te conserver la vitrine. C'est ça la logique méta, hein, c'est de la complicité forcée avec le spectateur et qui ne sert à rien juste pour se donner une légitimité à devoir sacrifier totalement l'œuvre géniale d'un mec qui avait eu. Alors du coup, ce syndrome terrible de se chercher une filiation désespérée avec une œuvre majeure, quitte à en reproduire les mêmes mécanismes, et je pense que c'est là que c'est terrible, pour les trahir fondamentalement dans leur sens profond, et ça, je pense que ce n'est pas cynique.
Je pense que c'est le syndrome de l'époque. Je pense que c'est la dérive idiocratique de l'époque. Je pense que c'est le politique et l'idéologie qui ont pris un tel pouvoir sur nos fantasmes sociétaux que ces mecs pensent sincèrement, et là je parle pas que de Rings of Power, je parle de toutes ces fictions modernes qui reprennent des vieux mythes. Ils pensent sincèrement qu'ils sont fidèles à l'œuvre originale. Mais ils ne comprennent pas, ou alors leur idéologie, leur politique ne leur permet pas d'accepter la raison pour laquelle c'était mythologique. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas moralement acceptables pour ces gens-là. Et qui étaient pourtant la raison d'être. C'est parce qu'elles avaient cette autre façon de voir le monde, cette autre façon de voir la condition humaine, cette autre façon de voir la morale, qu'on avait fait des films fédérateurs et universels. Alors, on te prend l'apparat, on te prend les personnages, on te prend la vitrine, Halloween, c'est vraiment symptomatique, c'est je te prends le générique, je te prends la même musique, et je te fais croire que je suis fidèle. Mais non, puisque tu ne comprends pas le sens profond. Un mythe, c'est pas juste un truc posé. Une épopée, c'est pas juste 40 000 guerriers sur une plaine et des trolls et des elfes. C'est pas ça, la fantaisie. C'est pas ça, l'épopée. L'épopée, c'est une projection humaine. C'est une héroïsation fantasmée de la condition humaine qui ne fait que traduire fondamentalement, symboliquement, de façon allégorique, les épreuves de la vie. Je ne vais pas revenir parce que j'ai déjà dit ça Mais ça, ils ne le comprennent pas. Donc ils vont aller reprendre des choses jusqu'au moment où ils vont se rendre compte que la raison pour laquelle ces choses existaient dans les œuvres qu'ils pillent, ah ben merde, elles ne matchent pas du tout avec leur logique, elles ne matchent pas du tout avec leur idéologie. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ben, on fait l'inverse, parce qu'on ne veut pas. Donc on garde le personnage, on garde la scène, on garde le dialogue, on garde le truc, mais on va l'adapter à notre vision des choses. Et ben ce faisant, tu dénatures complètement le sens du mythe et le sens du code. C'est ce qu'on voit se développer depuis 25 ans, quoi. Petit à petit. Et c'est ça qui détruit tout. Alors peut-être les gens, certains s'en rendent parfaitement compte, d'autres ne le voient pas, et donc se raccrochent désespérément à leurs souvenirs, parce qu'il suffit des fois que tu mettes une belle image. Tu sais, c'était génial, moi, le nombre de personnes que j'ai rencontrées sur le Star Wars de J.J. Abrams, où c'est hallucinant, parce que tu as tout. C'est-à-dire, on te prend le même décorum, on te prend les mêmes persos quasiment, on te fait la même facture visuelle, et on te dit, regardez, on est super fidèle à l'œuvre de George Lucas. Et puis, ça suffit. Il y a des gens pour qui ça suffit. Parce qu'ils ont leur lot de trucs laser, de la musique qui leur plaît, le visuel qui leur plaît, le clin d'œil de merde qui va leur plaire. Et derrière, tu as envie de le dire, mais est-ce que ça t'a transporté ? Est-ce que ça t'a fait réfléchir ? Est-ce que ça t'a élevé ? Est-ce que ça t'a tout d'un coup frappé aux tripes ? Parce que ces films-là, ils ont marché, ils sont devenus fondamentaux, mais parce qu'ils nous parlaient à l'intérieur de nous. Des fois, ouvertement dans leur militantisme, Robocop est une œuvre militante, donc ça peut te parler directement. Mais comme Star Wars est une œuvre combélienne par essence, ça te parle en tant qu'être humain parce que ces thématiques sont universelles. Et chaque personnage qui avait été construit dans ces œuvres correspondait à cette thématique-là. Tu ne peux pas juste les prendre et leur faire dire l'inverse. Et alors, tout Rings of Power, tous les anneaux de pouvoir, se révèlent être ça. Voilà. Allez, on fait une conclusion. Voilà, 7 minutes Yannick Dan est terminé. J'ai encore été une fois beaucoup trop long. Et évidemment, il va m'en vouloir, hein, qui va passer des plombs à devoir couper toutes les conneries que j'ai pu dire. Avant de vous quitter pour la semaine prochaine, où je sais pas vraiment encore exactement ce qu'on va faire, on voulait, mais toute l'équipe, hein, remercier énormément, ainsi que Stéphane et tout ça, pour le MOOC. Je déteste ce nom. Mais le MOOC Capture Mag, qui était sur Kiss Kiss Bang Bang, qui a fait 100%. Donc tout le monde a participé. C'est super. Maintenant, c'est sûr, il va exister. Vous pouvez l'acheter et tout. Et ça nous donne envie très probablement d'en faire d'autres derrière et de faire des choses aussi encore plus intéressantes, je l'espère. Voilà. Sur ce, je vous dis allez, à la semaine prochaine. Ciao.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.